RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
L'émission en français avec Inès Azagra et Guillermo Brown.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français sur Radio Extérieur d'Espagne.
Tout le monde pense. Tout le monde danse aussi.
Qui n'a jamais rêvé de savoir de quoi demain sera fait? À travers le monde et le temps, l'humanité tente de percer les mystères de son avenir. Individuel ou collectif, rationnel ou non, les prédictions sont multiples. Témoins du monde qui les entoure, les artistes aussi se sont saisis de cette préoccupation du futur. Du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, plus de 70 œuvres européennes seront présentées. Dans cette exposition, oracle, prophète, prophétesse, astrologie, cartomancie ou encore voyance.
Pour la première fois, une exposition fera découvrir au public les moyens de prévoir et d'anticiper l'avenir, souvent conjugué au féminin, et interrogera les croyances et a priori à l'heure du dérèglement climatique, des menaces de guerre ou de nouvelles pandémies, le désir de connaître l'avenir et d'influer sur le futur continue de hanter toutes les actions humaines.
Et puis, dès l'Antiquité, on va distinguer deux types de voyance. La voyance dite intuitive, donc c'est celle en fait qui émane du verbe divin, et donc on va avoir des pitis, des sibylles, des prophètes qui en fait sont des médiums par lesquels Dieu s'exprime. Et puis d'autre part, on a un autre type de voyance qui est décrite comme analytique et qui va s'exprimer plutôt à travers des techniques, des arts divinatoires.
Prédiction. Les artistes face à l'avenir est une exposition qui explore les modes de prédiction de l'avenir vus par les artistes tels que Dürer, Gustave Doré, Rodin, Chagall ou encore Fourquita. Elle sera disponible à partir du 30 mars à Bourg-en-Bresse, dans le monastère royal de Brou, et à partir du 12 avril, elle sera à l'H2M, espace d'art contemporain, à partir du 12 juillet au musée Thomas-Henry de Cherbourg-en-Corentin.
Dans une interview conduite par Guillermo Bravo, la commissaire du volet contemporain de l'exposition Marie de Paris-Diafile et la responsable du service des patrimoines et co-commissaire de l'exposition Magali Bria vont nous raconter tout sur cette exhibition thématique. Comme cette année, les fêtes de Pâques catholiques et orthodoxes ont un mois d'écart, le festival Zambo s'est déroulé il y a quelques jours à Tripoli, au Liban Nord. Toute l'information dans le reportage de notre correspondante au Liban, Esaïas Bek Charabati.
Vous écoutez Tout le monde pense, un duo de producteurs français qui mélange les rythmes afro-soul avec des sons venus du jazz un peu French Touch pour commencer l'émission de bonne humeur.
À la technique, Monsieur Morello, et au micro et dans vos oreilles, Inés Azagra et Guillermo Bravo, et à la production, Cristina Dorado.
Passons au journal de l'actu sur Radio Extérieur Espagne.
Où que vous soyez.
Le Parti populaire annonce son candidat pour les élections régionales en Catalogne.
Malgré l'avis contraire de la direction nationale du parti, le candidat populaire pour les élections catalanes sera Alejandro Fernández. Son style ironique et sa rhétorique agressive ne plaisaient pas à la direction de Núñez Feijóo, mais il a réussi à captiver les électeurs populaires dans la région.
Es normal que estés eufórico. No es para menos. Tienes sometido, humillado y chantajeado a todo un presidente del gobierno de España.
Critique contre l'indépendantisme et fier opposant de la loi d'amnesty, Fernández a protagonisé des titulaires de presse pour ses interventions ces derniers mois.
Porque somos miles y miles los catalanes que vamos a seguir plantando cara a todo aquello que tú significas.
S'adressant au dirigeant indépendantiste fugitif de la justice Carles Puigdemont, il affirmait qu'il a des milliers de Catalans qui sont prêts à continuer de lutter contre tout ce qu'il représente. Le Parti Populaire veut profiter de la quasi-disparition du parti Ciudadanos pour récupérer l'influence politique en Catalogne dans ces élections très divisées, dans lesquelles le Parti Socialiste semble arriver en force et les indépendantistes plus divisés que jamais.
Visage et corps grimés de noir et d'or, jupes en papier et perruques de clown, masques et même costumes de viking, sans compter les motifs audacieux représentés pour refléter le dynamisme de ce festival haut en couleur, les participants au Zambo défilent dans les ruelles de Mina à Tripoli au Liban Nord. Une petite équipe de méjouaises et de joueurs de tambour libanais les rejoignent, des tarbouches rouges sur la tête, sous le regard souriant des habitants qui observent la scène depuis leur balcon. Beaucoup de costumes ressemblent aux vêtements traditionnels des Amérindiens. Selon un habitant de la région, le Zambo est un festival qui marque la conversion du peuple de l'esclavage au christianisme. Personne ne connaît vraiment l'origine de cette tradition. Une tradition annuelle propre à Mina et qui est censée marquer la veille du carême orthodoxe. On dirait un mélange de carnaval brésilien et de Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans. Mais si l'on demande aux habitants d'où vient cette tradition, chacun a une histoire différente. Selon une habitante, le Zambo aurait été importé par des expatriés grecs et brésiliens il y a 50 ou 100 ans, une époque qui varie selon les personnes interrogées. Le nom du festival est également insaisissable. Selon une septuagénaire, le mot Zambo était utilisé à l'époque de l'Empire espagnol pour désigner les personnes d'ascendance mixte, africaine et indigène. Ce terme espagnol pourrait être l'un des ancêtres de l'injure raciale anglaise « Sambo ». En tout cas, cette année, le Zambo et le carême coïncident avec le mois de jeûne du Ramadan. Musulmans et chrétiens ont ainsi défilé ensemble. Les habitants de Mina, qui comptent une importante population grecque orthodoxe, mais aussi des musulmans et des chrétiens, affirment que toutes les confessions apprécient le festival, même s'il est ancré dans le carême chrétien. Elsa Yazbek Charabati pour l'émission en français Radio Exterior d'Espagne.
Le monastère royal de Brou et l'hôtel Marron de Millena, espace d'art contemporain en Bourg-en-Bresse, et le musée Thomas-Henry à Cherbourg en Cotentin organisent une exposition qui explore les modes de prédiction de l'avenir vus par des artistes tels que Dürer, Gustave Doré, Gorodin, Chagall ou encore Fujita. À travers le monde et le temps, l'humanité tente de percer les mystères de son avenir. Individuelle ou collective, rationnelle ou non, les prédictions sont multiples. Témoins du monde qui les entoure, les artistes aussi se sont saisis de cette préoccupation du futur. Du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, plus de 70 œuvres européennes seront présentées. Oracles, prophètes et prophétesses, astrologie, cartomancie ou encore voyance. Pour la première fois, une exposition fera découvrir au public les moyens de prévoir et d'anticiper l'avenir, suivant conjugué au féminin, et interrogera les croyances et a priori, à l'heure du dérèglement climatique, des menaces, des guerres ou des nouvelles pandémies, le désir de connaître l'avenir et d'influer sur le futur continue de hanter toutes les actions humaines. Qui n'a jamais rêvé de savoir quoi demain sera fait ? Alors nous sommes avec Magali Bria-Philippe, qui est responsable des services du patrimoine du monastère royal de Brou, qui est l'entité à l'origine de cette idée. Bonjour Magali, comment vas-tu ?
Bonjour, très bien, merci, et vous ?
Très bien. Nous sommes aussi avec Marie de Paris-Yafil, qui est commissaire indépendante du volet contemporain à l'espace H2M et l'espace d'art contemporain. Bonjour Marie, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va très bien. Merci de m'avoir invité à répondre à vos questions.
On est ravis de vous avoir toutes les deux ici pour découvrir un peu sur quoi porte ce projet. Et nous voulons commencer par vous demander une petite question ouverte. Est-ce que l'art est une façon de regarder vers le futur et de l'imaginer surtout ?
Alors, je pense que oui, effectivement, l'art a toujours été, c'est une de ses fonctions, de réfléchir sur l'avenir, de se projeter dans l'avenir, d'essayer de représenter l'avenir, de penser à l'avenir, et souvent en fonction du présent tel qu'il est offert aux artistes. En tout cas, pour les artistes de leur temps et les artistes contemporains, la question de savoir ce qui se passe aujourd'hui, la manière de l'appréhender au travers d'une œuvre d'art et la réflexion sur comment se projeter dans l'avenir est une question très très présente, très fréquente et très importante pour les artistes contemporains.
Alors pour ce qui est de l'histoire de l'art, en fait, effectivement, l'histoire de l'art reflète les préoccupations des civilisations. Donc, bien entendu, la préoccupation de l'avenir, qu'il soit eschatologique, religieux, donc par rapport à la fin des temps, ou qu'il soit beaucoup prosaïque à travers des almanachs paysans qui, en fonction des phases de la lune, cherchent à prédire aussi comment vont se passer les récoltes. Donc là, il y a vraiment quelque chose, évidemment, de très universel, de très intemporel. Mais dans les œuvres d'art, il va y avoir une forme de distance, parce que, bien sûr, les commanditaires de ces œuvres d'art appartiennent plutôt à l'élite. Donc finalement, les représentations populaires, on va les voir apparaître plutôt avec l'imprimerie et le XVe siècle.
C'est le monastère royal de Brou qui a eu l'idée originale et qui a lancé ce projet. Mais après, l'espace H2M d'art contemporain a aussi participé. Mais on va demander à Magali Bria-Philippe, quelle est l'idée à l'origine de cette exposition initialement?
Alors effectivement, en fait, l'idée, elle vient tout simplement de la présence dans le monastère royal de Brou très forte de l'avenir. Il s'agit d'une église funéraire qui, en fait, a été construite pour abriter plusieurs tombeaux, et notamment celui de sa fondatrice, Marguerite d'Autriche, et de son époux, Philibert le Beau, duc de Savoie, mort prématurément. Donc c'est une église qui est entièrement tournée vers l'espoir de la résurrection finale, avec le Christ ressuscité. Donc c'est finalement l'annonce de cette bonne nouvelle promise par la religion chrétienne, qui se traduit aussi avec la présence de sibylles et de prophètes, mais surtout de sibylles, puisqu'elles entourent le tombeau central, celui de Philibert, dans le cœur. Et donc c'est cette prédiction également qui se conjugue beaucoup au féminin, parce que le Christ ressuscité choisit d'apparaître d'abord à Marie-Madeleine et ensuite à la Vierge avant d'apparaître aux apôtres. Et ça, c'était aussi un sujet qu'on voulait aborder, c'est un de nos fils conducteurs, de rendre aussi davantage visible la place des femmes dans l'histoire de l'art, dans la société. Et puis l'autre préoccupation, c'était aussi de trouver un écho dans l'actualité, c'est-à-dire que nos expositions de Beaux-Arts doivent aussi permettre à nos visiteurs de réfléchir à la société telle qu'elle est aujourd'hui, aux grands enjeux. Or on voit bien que nous sommes dans un point de bascule, qu'il y a énormément d'anxiété liée au réchauffement climatique, aux guerres qui ont déjà éclaté et qui sont peut-être imminentes à nos portes. Donc on voit ressurgir aussi à la fois des pratiques divinatoires qu'on croyait un peu en recul avec le développement des sciences, avec le rationalisme, et puis en même temps l'espoir, peut-être l'illusion, de pouvoir, grâce à des algorithmes, grâce à des technologies très modernes, d'arriver malgré tout à prédire, à maîtriser, à contrôler, alors qu'en fait, tout nous démontre que le futur nous échappe.
Il y a des parallélismes très très intéressants entre les moments dans lesquels ces œuvres ont été créées. C'est à plusieurs moments, parce qu'on verra, il y a des œuvres qui viennent du XVe siècle, comme celle de Dürer, puis des toutes nouvelles qui datent de 2022, d'artistes contemporains. Mais je voulais aussi justement attirer un peu l'attention sur les artistes qui sont exposés, parce qu'il y a plusieurs noms, comme je viens de citer, qui valent la peine d'être énoncés. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques artistes dont les œuvres sont exposées?
Alors, on a un parcours, en fait, qui commence par la fin des temps et qui a été la préoccupation première de beaucoup de civilisations. Et dans cette section, on a, par exemple, un grand triptyque de Leonard Fujita, qui montre justement les différentes phases, donc le moment où les anges sonnent les trompettes, les quatre cavaliers, enfin tel que c'est décrit par Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse, avec le retour sur terre de Dieu, du Christ, la résurrection de tous les morts, etc. Donc des scènes effectivement extrêmement frappantes. Fujita avait choisi le prénom de Léonard en référence à Léonard de Vinci, donc il est vraiment nourri de peinture Renaissance, mais il revisite ce thème-là avec son style extrêmement moderne, coloré, expressionniste. Et à côté, on aura une œuvre aussi très importante d'Auguste Rodin, qui était absolument passionné par la Divine Comédie de Dante Alighieri. Donc c'est le premier texte écrit en italien au XIVe siècle, qui raconte comment Dante, accompagné du poète antique Virgile, part dans l'au-delà, traverse successivement l'enfer, le purgatoire, puis le paradis. Et Dante, dans ce texte, se fait lui-même prophète, puisqu'en fait, il va rencontrer un certain nombre de ses contemporains, par exemple le souverain de Pise, par exemple le pape, et il les envoie en enfer, c'est-à-dire qu'il observe justement dans sa vie les péchés qu'ils commettent, et puis dans son texte, il imagine qu'il les rencontre, par exemple, dans le 9e cercle, celui qui est consacré aux traîtres. Alors Rodin était absolument fasciné par ce texte, hein, dont il a tiré l'un de ses chefs-d'œuvre, La Porte de l'Enfer. Et nous avons le plaisir, grâce au musée Rodin, de présenter dans l'exposition l'un des fragments de cette magnifique Porte de l'Enfer, qui représente l'avarice et la luxure. Ensuite, nous poursuivons le parcours avec les oracles et pythies antiques, avec beaucoup de peintures classiques, puisque les peintres français du XVIIe siècle ont énormément puisé leurs sujets dans la mythologie gréco-latine. Donc Cassandre, que j'ai déjà cité, mais aussi Iphigénie, dont un oracle avait prédit le sacrifice nécessaire pour que les bateaux militaires d'Agamemnon puissent quitter le port de Troie pendant la guerre de Troie. Et on a ensuite deux parties sur les sibylles et sur les prophètes. Les sibylles qui en fait étaient au départ donc des prêtresses antiques, rattachée à la religion païenne. L'une des plus célèbres était celle de Delphes, qui rendait le culte à Apollon. Mais elles ont été ensuite christianisées par les auteurs chrétiens. Et à la fin du Moyen-Âge, elles passent du nombre de 10 à 12, ce qui leur permet d'être présentées en pendant de justement des prophètes. Et donc ces sibylles ont eu une fortune iconographique très très importante. Jeanne d'Arc, par exemple, en France, était considérée comme la sibylle française, puisqu'elle avait été en fait désignée par des voix comme étant celle qui allait délivrer le royaume de France. Et c'est parce qu'elle a cru justement à ce message divin qu'elle a pu mener à bien sa mission.
Effectivement.
Et puis on a aussi tous les anges. Alors par exemple, on a dans cette partie-là un très beau tableau de Marc Chagall qui représente le prophète Isaïe dont l'ange va lui transmettre le message divin.
Oui, et comme on voit, il y a beaucoup de façons de prédire le futur, et il y a beaucoup de buts différents pour pour prédire le futur. Et il y a beaucoup de types de personnes qui l'ont fait, aussi bien des personnalités plus rattachées au monde spirituel, mais aussi au politique, ou même un peu des deux, comme c'est le cas peut-être de Jeanne d'Arc. Mais en tout cas, Chagall, Dürer, Doré ou Fujita viennent d'endroits et de périodes assez différentes. Par exemple, Dürer, comme on disait avant, vient du 15e siècle. La plupart des artistes exposés sont plutôt du 19e, et comme on disait aussi, il y a des artistes même contemporains. Après, on a Fujita qui vient du Japon, Chagall qui est biélorusse d'origine, même si après il a été nationalisé français. Mais je voulais savoir quelle différence voit-on dans ces méthodes pour prédire l'avenir dans chaque artiste en fonction de leur origine ou de leur époque.
Alors justement, en fait, comme je le disais, la peinture du XVIIe, par exemple, va beaucoup plus représenter la mythologie gréco-romaine, tandis que pour tout ce qui est art divinatoire, c'est-à-dire des pratiques en fait qui étaient réprouvées par l'Église, les représentations vont surtout se développer effectivement à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, même si on a déjà des représentations antérieures. Et puis après, bah effectivement, oui, il y a des modes, des évolutions. La figure de Diseuse de Bonaventure, par exemple, au XIXe siècle, elle incarne aussi la gitane, la femme fatale, exotique, un peu mystérieuse et dangereuse. Et bah, vous citiez par exemple le tableau de Gustave Doré. Il inverse un petit peu ce stéréotype puisqu'il montre des saltimbanques, donc des artistes de cirque dont l'enfant vient de chuter du trapèze, hein, que l'on voit en arrière-plan. Et l'enfant blessé est dans les bras de sa mère, avec son père à côté qui pleure, et toutes les cartes étalées devant elle montrent que malheureusement l'enfant ne va probablement pas survivre à cet accident. Donc il donne quelque chose de très dramatique à cette scène. Là où habituellement les scènes de Diseuse de Bonaventure, voilà, qui remontent évidemment à Caravage et aux scènes de genre du XVIIe siècle, étaient plutôt des scènes frivoles, un peu légères, destinées à montrer aussi qu'il y a des jeux de dupes, que certains volent et trompent d'autres. Donc là, on voit effectivement, avec le développement de ces thèmes-là, des évolutions suivant les époques, suivant les sensibilités des artistes. Et puis, à l'époque moderne, mais ça, c'est un sujet un peu différent, l'artiste devient voyant lui-même, c'est-à-dire qu'avec le développement des avant-gardes, les nabis, par exemple, prennent ce nom en référence au mot hébreu qui signifie « prophète ». Les symbolistes s'intéressent énormément à l'occultisme, au spiritisme, donc ils vont aller rechercher aussi tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Les surréalistes également vont intégrer la notion de jeu, parce que ça, c'est très important aussi, cette notion de jeu. C'est-à-dire qu'il y a toujours, enfin il y a souvent une forme d'ambiguïté aussi dans ces pratiques, qui sont parfois d'ailleurs tournées en dérision aussi. Hein. On aura toute une partie dans l'exposition avec des œuvres humoristiques.
Oui. Alors, allez-y, oui.
Si je peux rebondir justement sur cette dimension un peu de distance ou critique, en fait, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup chez les artistes contemporains. Alors, dans la partie contemporaine, donc l'idée était effectivement de prolonger la réflexion sur la manière dont les artistes contemporains s'emparent ou s'intéressent à ce sujet. Donc, effectivement, si au départ, au début de l'exposition, je fais le lien avec effectivement ce qui est présenté au Monastère Royal de Brou avec des artistes qui vont faire des œuvres autour de pratiques divinatoires, comme effectivement la lecture des hospices au travers du vol des oiseaux, comme le zodiaque, comme les tarots, donc les cartes à cartomancie, il y a déjà d'emblée pour certains artistes une certaine distance un peu humoristique. Il y a par exemple un artiste qui s'appelle Pablo Cox et qui va réaliser dans l'exposition une espèce d'installation reprenant un espèce de bureau de marabout, un petit peu comme ça, un petit peu étrange et avec beaucoup d'humour. Donc il y a déjà cette distance qui est prise par rapport à cette possibilité de la prédiction. Et par la suite, ce que l'on remarque effectivement dans l'ensemble des artistes, en tout cas c'est un peu la voie que j'avais choisie, c'était en fait une réflexion avec une certaine distance et un regard assez critique sur, d'une part, la nécessité que l'humanité a toujours d'essayer de prédire l'avenir, d'autant plus en cette période, comme l'a dit Magali, qui est particulièrement difficile, avec ses craintes climatiques, politiques, etc., et cette pensée récurrente d'apocalypse de fin du monde. C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup chez les artistes contemporains lorsqu'on leur demande de parler de l'avenir ou de réaliser des œuvres, se projeter sur l'avenir, on arrive assez rapidement à des œuvres qui font référence à l'idée de fin du monde ou à l'idée d'apocalypse. Donc on a toujours cette distance un peu critique. On a par exemple des œuvres qui font écho justement aux nouvelles prédictions, aux nouvelles manières de prédire. Les collapsologues, les gens qui les survivalistes, les complotistes, etc. Et puis on a aussi une réflexion que j'ai voulu montrer à travers un certain nombre d'œuvres sur, d'une part, l'intelligence artificielle, effectivement le traitement des algorithmes, où on a vraiment une grande confiance en cette manière de prédire l'avenir, de prévoir l'avenir, de calculer l'avenir. Et en fait, on se rend compte que il y a forcément une part d'indéterminé qui rend cela en réalité forcément caduque. Et puis, parmi effectivement ces possibilités nouvelles que pourrait donner l'intelligence artificielle, la manière dont peut s'affiner l'économie prédictive, c'est-à-dire que si on part du principe que l'économie aujourd'hui régit le monde, c'est donc par l'économie ou par les prévisions économiques qu'on va peut-être pouvoir savoir le mieux comment le monde va se porter à l'avenir, et que là encore et plus que jamais, en fait, l'économie prédictive est forcément quelque chose d'approximatif en réalité. Et donc, il y a des artistes contemporains qui s'intéressent en fait également à ces questions. Donc, en fait, chez les artistes contemporains, on a vraiment une remise en question de ce besoin, de cette nécessité de prévoir l'avenir dans un moment qui est particulièrement compliqué et de bascule. On ne sait pas si il va y avoir survivance ou non de l'humanité, et une espèce de regard critique effectivement sur la manière dont on pense pouvoir prédire, prévoir et calculer cet avenir. Avec in fine effectivement cet horizon de fin de monde, d'apocalypse et de disparition de l'humanité. Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans les œuvres des artistes contemporains sur ce sujet.
Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous. On réencourage encore tous nos auditeurs à aller voir les expositions s'ils ont la chance de le faire. Si vous voulez nous annoncer les dates de quand est-ce que ce sera disponible dans chacun des deux endroits pour que nos auditeurs puissent le savoir, ce serait bien.
Alors,
l'exposition aura lieu au Monastère Royal de Brou du 30 mars au 23 juin de cette année, et ensuite partira à Cherbourg du 12 juillet au 16 octobre.
Et la partie contemporaine de l'exposition, qui ne part pas à Cherbourg, commencera le 12 avril et se terminera le 31 juillet, donc à H2M, à Bourg-en-Bresse.
Super, vous l'avez écouté.
Du 13 avril au 28 juillet, effectivement.
Ok.
13 avril, 28 juillet.
Super, maintenant vous l'avez écouté, vous avez les dates, vous avez le contenu, donc il ne reste plus qu'à aller voir cette exposition, ou bien à Cherbourg en Cotentin, ou bien à Bourg-en-Bresse. Vous avez deux possibilités, donc faites-le parce que ça vaudra la peine. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre temps.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
Be
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et rappelez-vous que cette émission et toutes les précédentes sont disponibles dans notre site web rtve.es, l'application RTVE Play et les principales plateformes de podcast. À la prochaine.
Ciao ciao, à très bientôt et surtout à samedi.